Considérations sur la Révolution française par Madame de Staël. Ouvrage posthume publié en 1848 par M. le Duc de Breuil et M. le Baron de Staël. Nouvelle édition. Paris, Charpentier, libraire, éditeur, 1862. Seconde partie, chapitre 1er. Mirabeau. On dirait qu'à toutes les époques de l'histoire, il y a des personnages qu'on peut considérer comme les représentants du bon et du mauvais principe. Tels étaient Cicéron et Catalina, dans Rome. Tels furent M. Necker et Mirabeau, en France. Mirabeau, doué de l'esprit le plus énergique et le plus étendu, se crut assez fort pour renverser le gouvernement et pour établir sur ses ruines un ordre de choses quelconque qui fût l'œuvre de ses mains. Ce projet gigantesque perdit la France, et le perdit lui-même, car il se conduisit d'abord comme un factieux, bien que sa véritable manière de voir fût celle de l'homme d'État le plus réfléchi. Ayant passé toute sa vie, jusqu'à 40 ans qu'il avait alors, dans les procès, les enlèvements et les prisons, il était banni de la bonne compagnie et son premier désir était d'y rentrer. Mais il fallait mettre le feu à l'édifice social pour que les portes des salons de Paris lui fussent ouvertes. Mirabeau, comme tous les hommes sans morale, vit d'abord son intérêt personnel dans la chose publique, et sa prévoyance fut bornée par son égoïsme. Un malheureux député de la Commune, homme à bonnes intentions, mais sans aucune sorte de talent, rendit compte à l'Assemblée constituante de la journée de l'Hôtel de Ville, dans laquelle M. Necker avait triomphé des passions haineuses qu'on voulait exciter parmi le peuple. Ce député hésitait si péniblement, il s'exprimait avec une telle froideur, et cependant, il montrait un tel désir d'être éloquent, qu'il détruisit tout l'effet de l'admirable récit dont il s'était chargé. Mirabeau, blessé néanmoins jusqu'au fond de son orgueil des succès de M. Necker, se promit de défaire par l'ironie dans l'Assemblée et par des soupçons auprès du peuple ce que l'enthousiasme avait produit. Il se rendit dès le jour même dans toutes les sections de Paris et il obtint la rétractation de l'amnistie accordée la veille. Il tâcha d'exaspérer les esprits contre les projets qu'avait eus la cour et fit naître chez les Parisiens une crainte de passer pour bon jusqu'à la duperie, crainte qui agit toujours sur eux, car ils veulent avant tout qu'on les croie pénétrants et redoutables. Mirabeau, en arrachant à M. Necker la palme de la paix intérieure, porta le premier coup à sa popularité. Mais ce revers devait être suivi de beaucoup d'autres, car du moment que l'on excitait le parti populaire à persécuter les vaincus, M. Necker ne pouvait plus rester avec les vainqueurs. Mirabeau se hâta de proclamer les principes les plus désorganisateurs, lui dont la raison, isolée de son caractère, était parfaitement sage et lumineuse. M. Necker a dit de lui, dans un de ses ouvrages, qu'il était « tribun par calcul et aristocrate par goût ». Rien ne pouvait mieux le peindre. Non seulement son esprit était trop supérieur pour ne pas connaître l'impossibilité de la démocratie en France, mais ce gouvernement eût été praticable, qu'il ne s'en serait pas soucié. Il attachait un grand prix de vanité à sa naissance. En parlant de la Saint-Barthélemy, on l'entendait dire « L'amiral Coligny qui, par parenthèse, était mon cousin », tant il cherchait l'occasion de rappeler qu'il était bon gentilhomme. Ses goûts dispendieux lui rendaient l'argent fort nécessaire. Et l'on a reproché à M. Necker de lui en avoir pas donné à l'ouverture des États généraux. Les autres ministres s'étaient chargés de ce genre d'affaires, auxquelles le caractère de M. Necker n'était point propre. D'ailleurs, Mirabeau, soit qu'il acceptât ou non l'argent de la cour, était bien décidé à se faire le maître et non l'instrument de cette cour. Et l'on n'aurait jamais obtenu de lui qu'il renonçât à sa force démagogique, avant que cette force l'eût conduit à la tête du gouvernement. Il proclamait la réunion de tous les pouvoirs, dans une seule assemblée, bien qu'il sût parfaitement qu'une telle organisation politique était destructive de tout bien. Mais il se persuadait que la France serait dans sa main et qu'il pourrait, après l'avoir précipitée dans la confusion, l'en retirer à sa volonté. la morale est la science des sciences, à ne la considérer que sous le rapport du calcul. Il y a toujours des limites à l'esprit de ceux qui n'ont pas senti l'harmonie de la nature des choses, avec les devoirs de l'homme. La petite morale tue la grande, répétait souvent Mirabeau. Mais l'occasion de la grande ne se présentait guère, selon lui, dans tout le cours d'une vie. Il avait plus d'esprit que de talent, et ce n'était jamais qu'avec effort qu'il improvisait à la tribune. Cette même difficulté de rédaction lui fit avoir recours à ses amis pour l'aider dans tous ses ouvrages. Mais cependant, aucun d'eux, après sa mort, n'aurait pu écrire ce qu'il savait leur inspirer. Il disait, en parlant de l'abbé Maury, « Quand il a raison, nous disputons. Quand il a tort, je l'écrase. » Mais c'est que l'abbé Maury défendait souvent, même de bonne cause, avec cette espèce de faconde qui ne vient pas de l'émotion intime de l'âme. Si l'on avait admis les ministres dans l'Assemblée, M. Necker, qui plus que personne était capable de s'expliquer avec force et avec chaleur, aurait, je le crois, triomphé de Mirabeau. Mais il était réduit à envoyer des mémoires et ne pouvait entrer dans la discussion. Mirabeau attaquait le ministre en son absence, tout en louant sa bonté, sa générosité, sa popularité, avec un respect trompeur singulièrement redoutable. Et pourtant, il admirait sincèrement M. Necker et ne s'en cachait point à ses amis. Mais il savait bien qu'un caractère aussi scrupuleux ne s'allierait jamais avec le sien, et il voulait en détruire l'influence. M. Necker était réduit au système défensif. L'autre attaquait avec d'autant plus d'audace que ni les succès ni la responsabilité de l'administration ne le regardaient. M. Necker, en défendant l'autorité royale, abdiquait nécessairement la faveur du Parti populaire. Cependant, il savait par expérience que le roi avait des conseillers secrets et des plans particuliers, et il n'était pas assuré de lui faire suivre la marche qu'il croirait la meilleure. Les obstacles de tout genre entravaient chacun de ses pas. Il ne pouvait parler ouvertement sur rien. Néanmoins, la ligne qu'il suivait toujours, c'était celle que lui traçait son devoir de ministre. La nation et le roi avaient changé de place. Le roi était devenu de beaucoup et de beaucoup trop le plus faible. Ainsi donc, M. Necker devait défendre le trône auprès de la nation comme il avait défendu la nation auprès du trône. Mais tous ses sentiments généreux n'embarrassaient point Mirabeau. Il se mettait à la tête du parti qui voulait gagner à tout prix de l'importance politique, et les principes les plus abstraits n'étaient pour lui que des moyens d'intrigue. La nature l'avait bien servi en lui donnant les défauts et les avantages qui agissent sur une assemblée populaire. De l'amertume, de la plaisanterie, de la force et de l'originalité. Quand il se levait pour parler, quand il montait à la tribune, la curiosité de tous était excitée. Personne ne l'estimait, mais on avait une si haute idée de ses facultés que nul n'osait l'attaquer, si ce n'est ceux des aristocrates qui, ne se servant point de la parole, lui envoyaient défi sur défi pour l'appeler en duel. Il s'y refusait toujours, prenant note sur ses tablettes des propositions de ce genre qu'on lui adressait et promettant qu'il y répondrait à la fin de l'assemblée. « Il n'est pas juste, disait-il, en parlant d'un honnête gentilhomme de je ne sais quelle province, que j'expose un homme d'esprit comme moi contre un sot comme lui. » Et chose bizarre, dans un pays tel que la France, cette conduite ne le déconsidérait pas. Elle ne faisait pas même suspecter son courage. Il y avait quelque chose de si martial dans son esprit, de si hardi dans ses manières, qu'on ne pouvait accuser un tel homme d'aucune peur. Chapitre 2. De l'Assemblée constituante après le 14 juillet. Le tiers-État et la minorité de la noblesse et du clergé composaient la majorité de l'Assemblée constituante, et cette Assemblée disposait de la France. Depuis le 14 juillet, rien n'était plus imposant que le spectacle de 1200 députés, écoutés par de nombreux spectateurs et s'enflammant au seul nom des grandes vérités qui ont occupé l'esprit humain depuis l'origine de la société sur la terre. Cette assemblée était peuple par ses passions, mais aucune réunion ne pouvait présenter une aussi grande masse de lumière. L'électricité des pensées s'y communiquait en un instant, parce que l'action des hommes sur les hommes est irrésistible, et que rien ne parlait plus à l'imagination que cette volonté sans armes, brisant d'antiques chaînes, que la conquête avait jadis forgées, et que la simple raison faisait tout à coup disparaître. Il faut se transporter en 1789, lorsque les préjugés seuls avaient fait du mal au monde, et que la liberté non souillée était le culte de tous les esprits supérieurs. L'on concevra facilement l'enthousiasme dont on était saisi à l'aspect de tant d'individus appartenant à diverses classes, et venant, les uns offrir leurs sacrifices, les autres prendre possession de leurs droits. Néanmoins, on pressentait l'arrogance du pouvoir dans ces souverains d'un nouveau genre, qui se disaient les dépositaires d'une autorité sans limite, celle du peuple. Les Anglais s'étaient créé lentement une organisation politique nouvelle. Les Français, la voyant solidement établie ailleurs, depuis plus de 100 ans, devaient s'en tenir à l'imiter. Mounier, Lally, Malouet, Clermont-Tonnerre se montrèrent les appuis de la prérogative royale dès que la Révolution eut désarmé les partisans de l'Ancien Régime. Non seulement la réflexion, mais un mouvement involontaire attache aux puissants tombés dans le malheur, surtout quand d'augustes souvenirs les environnent. Cette disposition généreuse aurait été celle des Français si le besoin d'être applaudi ne l'emportait pas chez eux sur toute autre impulsion. Et l'esprit du temps inspirait des maximes démagogiques à ces mêmes gens qui devaient faire ensuite l'apologie du despotisme. Un homme d'esprit disait jadis: quel que soit le ministre des Finances qui doive être nommé, je suis d'avance son ami et même un peu son parent. Il faudrait au contraire en France être toujours l'ami du parti battu, quel qu'il soit, car la puissance déprave le français plus que les autres hommes. L'habitude de vivre à la cour ou de désirer d'y arriver a formé les esprits à la vanité. Et dans un gouvernement arbitraire, on n'a pas l'idée d'une autre doctrine que celle du succès. Ce sont les défauts acquis et développés par la servilité qui ont été la cause des excès de la licence. Chaque ville, chaque village envoyait des félicitations à l'Assemblée constituante, et celui qui avait rédigé l'une de ses 40 000 adresses se croyait un émule de Montesquieu. La foule des spectateurs qu'on admettait dans les galeries animait les orateurs tellement que chacun voulait obtenir pour son compte ce bruit des applaudissements dont la jouissance nouvelle séduisait les amours propres. En Angleterre, il est interdit de lire un discours, il faut l'improviser. Ainsi, le nombre des personnes capables de parler est nécessairement très réduit. Mais lorsqu'on permet de lire ce qu'on a écrit soi-même ou ce que les autres ont écrit pour nous, les hommes supérieurs ne sont plus les chefs permanents des assemblées, et l'on perd ainsi l'un des plus grands avantages des gouvernements libres, celui de mettre le talent à sa place, et par conséquent d'encourager tous les hommes à perfectionner leurs facultés. Quand on peut être courtisan du peuple avec aussi peu de talent qu'il en faut pour être courtisan des princes, l'espèce humaine n'y gagne rien. Les déclamations démocratiques avec lesquelles on réussissait à la tribune se transformaient en mauvaises actions dans les provinces. On brûlait les châteaux en exécution des épigrammes prononcées par les orateurs de l'Assemblée. Et c'était à coups de phrases que l'on désorganisait le royaume. L'Assemblée était saisie par un enthousiasme philosophique, dont l'exemple de l'Amérique était une des causes. On voyait un pays qui, n'ayant point encore d'histoire, n'avait rien eu d'ancien à ménager, si ce n'est les excellentes règles de la jurisprudence anglaise, qui, depuis longtemps adoptées en Amérique, y avaient fondé l'esprit de justice et de raison. On se flattait en France de pouvoir prendre pour base les principes de gouvernement qu'un peuple nouveau avait eu raison d'adopter. Mais au milieu de l'Europe et avec une caste de privilégiés dont il fallait apaiser les prétentions. Un tel projet était impraticable. Et d'ailleurs, comment concilier les institutions d'une république avec l'existence d'une monarchie? La constitution anglaise offrait le seul exemple de ce problème résolu. Mais une manie de vanité presque littéraire inspirait aux Français le besoin d'innover à cet égard. Ils craignaient, comme un auteur, d'emprunter les caractères ou les situations d'un ouvrage déjà existant. Or, en fait de fiction, on a raison d'être original. Mais quand il s'agit d'institutions réelles, l'on est trop heureux que l'expérience les ait garanties. Certes, j'aurais honte, dans ce temps-ci, plus que dans tout autre, de me mêler aux déclamations contre la première assemblée représentative de France. Elle renfermait des hommes du plus rare mérite. Et c'est à la réforme opérée par elle que la nation est redevable encore des richesses de raison et de liberté qu'elle veut et doit conserver à tout prix. Mais si cette assemblée avait joint à ces rares lumières une moralité plus scrupuleuse, elle aurait trouvé le point juste entre les deux parties qui se disputaient, pour ainsi dire, la théorie publique. Chapitre 3. Le général Lafayette. Monsieur de Lafayette, ayant combattu dès sa première jeunesse pour la cause de l'Amérique, s'était pénétré de bonne heure des principes de liberté qui font la base du gouvernement des États-Unis. S'il a commis des erreurs relativement à la Révolution de France, elles tiennent toutes à son admiration pour les institutions américaines et pour le héros citoyen, Washington, qui a guidé les premiers pas de sa nation dans la carrière de l'indépendance. Monsieur de Lafayette, jeune, riche, noble, aimé dans sa patrie, quitta tous ses avantages à l'âge de 19 ans pour aller servir au-delà des mers cette liberté dont l'amour a décidé de toute sa vie. S'il avait eu le bonheur de naître aux États-Unis, sa conduite eût été celle de Washington. Le même désintéressement, le même enthousiasme, la même persévérance dans les opinions distingue l'un et l'autre de ses généreux amis de l'humanité. Si le général Washington avait été, comme le marquis de Lafayette, chef de la garde nationale de Paris, peut-être aussi n'aurait-il pu triompher des circonstances. Peut-être aurait-il aussi échoué contre la difficulté d'être fidèle à ses serments envers le roi, et d'établir cependant la liberté de la nation. Monsieur de Lafayette, il faut le dire, doit être considéré comme un véritable républicain. Aucune des vanités de sa classe n'est jamais entrée dans sa tête. La puissance, dont l'effet est si grand en France, n'a point d'ascendant sur lui. Le désir de plaire dans les salons ne modifie pas la moindre de ses paroles. Il a sacrifié toute sa fortune à ses opinions avec la plus généreuse indifférence. Dans les prisons d'Olmutz, comme au pinacle du crédit, il a été également inébranlable dans son attachement au même principe. C'est un homme dont la façon de voir et de se conduire est parfaitement directe. Qui l'a observé peut savoir d'avance avec certitude ce qu'il fera dans toute occasion. Son esprit politique est pareil à celui des Américains des États-Unis, et sa figure même est plus anglaise que française. Les haines dont M. de Lafayette est l'objet n'ont jamais aigri son caractère, et sa douceur d'âme est parfaite. Mais aussi, rien n'a jamais modifié ses opinions, et sa confiance dans le triomphe de la liberté est la même que celle d'un homme pieux dans la vie à venir. Ses sentiments, si contraires aux calculs égoïstes de la plupart des hommes qui ont joué un rôle en France, pourraient bien paraître à quelques-uns assez digne de pitié. Il est signé, pense-t-il, de préférer son pays à soi, de ne pas changer de parti quand le parti qu'on servait est battu. Enfin, de considérer la race humaine non comme des cartes à jouer qu'il faut faire servir à son profit, mais comme l'objet sacré d'un dévouement absolu. Néanmoins, si c'est ainsi qu'on peut encourir le reproche de niaiserie, puissent nos hommes d'esprit le mériter une fois. C'est un phénomène singulier qu'un caractère pareil à celui de M. de Lafayette se soit développé dans le premier rang des gentilshommes français. Mais on ne peut l'accuser ni le juger impartialement sans le reconnaître pour tel que je viens de le peindre. Il est alors facile de comprendre les divers contrastes qui devaient naître entre sa situation et sa manière d'être. Soutenant la monarchie par devoir plus que par goût, il se rapprochait involontairement des principes des démocrates qu'il était obligé de combattre, et l'on pouvait apercevoir en lui quelques faibles pour les amis de la République, quoique sa raison lui défendît d'admettre leur système en France. Depuis le départ de M. de Lafayette pour l'Amérique, il y a 40 ans, on ne peut citer ni une action, ni une parole de lui qui n'ait été dans la même ligne, sans qu'aucun intérêt personnel ne soit jamais mêlé à sa conduite. Le succès aurait mis cette manière d'être en relief, mais elle mérite toute l'attention de l'historien, malgré les circonstances et même les fautes qui peuvent servir d'armes aux ennemis. Le 11 juillet, avant que le tiers-État eût triomphé, M. de Lafayette parut à la tribune de l'Assemblée constituante pour proposer une déclaration des droits à peu près semblable à celle que les Américains mirent à la tête de leur constitution lorsqu'ils eurent conquis leur indépendance. Les Anglais aussi, quand ils appelèrent Guillaume III à la couronne, après l'exclusion des Stuarts, lui firent signer un bill des droits sur lesquels la constitution actuelle de l'Angleterre est fondée. Mais la déclaration des droits d'Amérique étant destinée à un peuple où nul privilège antérieur n'opposait d'obstacle au dessein pur de la raison, on mit à la tête de cette déclaration des principes universels sur la liberté et l'égalité politique, tout à fait d'accord avec les lumières déjà répandues parmi la nation américaine. En Angleterre, le Bill des droits ne portait point sur des idées générales, il consacrait des lois et des institutions positives. La Déclaration des droits de 1789 renfermait ce qu'il y avait de meilleur dans celle d'Angleterre et d'Amérique. Mais peut-être aurait-il mieux valu s'en tenir à ce qui, d'une part, n'est pas contestable, et de l'autre, ne saurait être susceptible d'aucune interprétation dangereuse. Les distinctions sociales, on en saurait douter, ne peuvent avoir d'autre but que l'utilité de tous. Les pouvoirs politiques émanent tous de l'intérêt du peuple. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux devant la loi. Mais il y a bien de l'espace pour des sophismes dans un champ aussi vaste, tandis que rien n'est plus clair et plus positif que l'application de ces vérités à la liberté individuelle, à l'établissement du jury, à la liberté de la presse, à l'élection populaire, à la division du pouvoir législatif, au consentement des subsides, etc. Philippe le Long a dit que tout homme, et en particulier tout Français, naissait et demeurait libre. L'on sait au reste qu'il ne s'est pas laissé gêner par les conséquences de cette maxime. Mais les nations pourraient y attacher un sens plus étendu que les rois. Quand la Déclaration des droits de l'homme parut dans l'Assemblée constituante, au milieu de tous ces jeunes gentilshommes, naguère courtisans, ils apportèrent, l'un après l'autre, à la tribune, leurs phrases philosophiques, se complaisant dans les débats minutieux sur la rédaction de telle ou telle maxime, dont la vérité est pourtant si évidente que les mots les plus simples de toutes les langues peuvent l'exprimer également. L'on prévit alors que rien de stable ne pourrait sortir d'un travail dont la vanité, frivole et factieuse tout ensemble, s'était si vite emparée. Chapitre 4. Des biens opérés par l'Assemblée constituante. Avant de retracer les funestes événements qui ont dénaturé la Révolution française et perdu en Europe, pour longtemps peut-être, la cause de la raison et de la liberté, examinons les principes proclamés par l'Assemblée constituante et présentons le tableau des biens que leur application a produit et produit encore en France, malgré tous les malheurs qui ont pesé sur ce pays. La torture subsistait en 1789. Le roi n'avait aboli que la question préparatoire, des supplices tels que la roue et des tourments pareils à ceux qui avaient été infligés pendant 3 jours à Damiens étaient encore admis dans de certains cas. L'Assemblée constituante abolit jusqu'au nom de ces barbaries judiciaires. Les lois sur les protestants, déjà améliorées par les avant-coureurs des États généraux en 1787, furent remplacées par la liberté des cultes la plus complète. Les procès criminels n'étaient point instruits en public, et non seulement ils se commettaient beaucoup d'erreurs irréparables, mais on en supposait encore davantage, car tout ce qui n'est pas mis en évidence en fait d'actes des tribunaux passe toujours pour injuste. L'Assemblée constituante introduisit en France toute la jurisprudence criminelle de l'Angleterre, et peut-être la perfectionna-t-elle encore à quelques égards, n'étant liée dans son travail par aucune coutume ancienne. Monsieur de Lafayette, dès qu'il fut nommé chef de la force armée de Paris, déclara à la commune de cette ville qu'il ne pouvait se permettre d'arrêter personne si l'on n'accordait pas aux accusés un défenseur. La communication des pièces, la confrontation des témoins et la publicité de la procédure. En conséquence de cette réclamation, aussi belle que rare dans un chef militaire, la commune demanda et obtint de l'Assemblée constituante ses précieuses garanties, en attendant que l'établissement des jurés prévînt toute anxiété sur l'équité des jugements. Les parlements étaient, comme l'histoire le prouve, des corps privilégiés, instruments des passions politiques. Mais par cela seul qu'il y avait quelque indépendance dans leur organisation et que le respect des formes y était consacré, les ministres des rois ont été sans cesse en guerre avec eux. Et comme nous l'avons dit plus haut, il n'y a presque pas eu, depuis le commencement de la monarchie française, un crime d'État dont la connaissance n'ait été soustraite aux tribunaux ordinaires, ou dans le jugement duquel les formes voulues par la loi aient été suivies. En examinant la liste sans fin des ministres, des nobles et des citoyens condamnés à mort pour des causes politiques depuis plusieurs siècles, on voit, il faut le dire à l'honneur de la magistrature légale, que le gouvernement a été obligé de renvoyer les procès à des commissions extraordinaires quand il a voulu s'assurer des sentences. Ces commissions étaient souvent prises, il est vrai, parmi les anciens magistrats, mais non d'après les coutumes établies. Et cependant, le gouvernement ne pouvait que trop se fier en général à l'esprit des tribunaux. La jurisprudence criminelle de France était tout entière vengeresse de ce qu'on appelait l'État, et nullement protectrice des individus. Par une suite des abus aristocratiques qui dévoraient la nation, les procès civils étaient conduits avec beaucoup plus d'équité que les procès criminels, parce que les premières classes y étaient plus intéressées. On ne fait guère encore en France de distinction entre un accusé et un homme reconnu coupable. Tandis qu'en Angleterre, le juge avertit lui-même le prévenu qui l'interroge de l'importance des questions qu'il lui fait et du danger auquel pourraient l'exposer ses réponses. Il est une sorte de moyen, à commencer par les commissaires de police et à finir par la torture, qui n'ait été employé par la jurisprudence ancienne et par les tribunaux révolutionnaires pour faire tomber dans le piège l'homme à qui la société doit accorder d'autant plus de moyens de défense qu'elle se croit le triste droit de le faire périr. Si l'Assemblée constituante avait supprimé la peine de mort, au moins pour les délits politiques, peut-être les assassinats judiciaires dont nous avons été les témoins n'auraient-ils pas eu lieu. L'empereur Léopold II, comme grand-duc de Toscane, supprima la peine de mort dans ses États. Et loin que les délits aient été augmentés par la douceur de la législation, les prisons furent libres pendant des mois entiers, ce qui n'avait jamais eu lieu auparavant. L'Assemblée nationale substitua au Parlement, composé de membres dont les charges étaient vénales, l'admirable institution des jurés qui sera chaque jour plus vénéré à mesure qu'on en sentira mieux les bienfaits. Quelques circonstances bien rares peuvent intimider les jurés lorsque les autorités et le peuple se réunissent pour les effrayer. Mais néanmoins, l'on a vu la plupart des factions qui se sont emparées du pouvoir se défier de l'équité des jurés et les suspendre pour y substituer des commissions militaires, des cours spéciales, des cours prévotales, tous ces noms qui servent de déguisement aux meurtres politiques. L'Assemblée constituante, au contraire, a restreint le plus qu'il était possible la compétence des conseils de guerre, les bornant uniquement aux délits commis par des militaires en temps de guerre et en pays étrangers. Elle a retiré aux cours prévotales les attributions qu'on a voulu malheureusement rétablir depuis, et même étendre. Les lettres de cachet permettaient au pouvoir royal, et par conséquent ministériel, d'exiler, de bannir, de déporter, d'enfermer pour sa vie entière, sans jugement, un homme quel qu'il fût. Une telle puissance, partout où elle existe, constitue le despotisme. Elle devait être anéantie du jour où il y avait des députés de la nation réunis en France. L'Assemblée constituante, en proclamant la parfaite liberté des cultes, replaçait la religion dans son sanctuaire, la conscience, et 12 siècles de superstition, d'hypocrisie et de massacre ne laissaient plus de vestiges grâce à quelques moments pendant lesquels le pouvoir s'était trouvé entre les mains d'hommes éclairés. Les vœux religieux n'ont plus été reconnus par la loi. Chaque individu de l'un ou l'autre sexe pouvait encore s'imposer les privations les plus bizarres s'il croyait plaire ainsi à l'auteur de toutes les jouissances vertueuses et pures. Mais la société ne s'est plus chargée de forcer les moines et les religieuses à rester dans leur couvent quand ils se repentaient des promesses infortunées que l'exaltation leur avait inspirées. Les cadets de famille, que l'on forçait souvent à prendre l'état ecclésiastique, se sont trouvés libres de leur chaîne, et plus libres encore quand les biens du clergé furent devenus la propriété de l'État. 100 000 nobles étaient exempts de payer des impôts. Ils ne pouvaient pas rendre raison d'une insulte à un citoyen ou un soldat du tiers-État, parce qu'ils étaient censés d'une autre race. L'on ne pouvait choisir des officiers que parmi ces privilégiés, excepté dans l'artillerie et le génie, armes pour lesquelles il fallait plus d'instruction que les nobles de province n'en avaient d'ordinaire. Et cependant, l'on donnait des régiments à de jeunes seigneurs incapables de les conduire, parce qu'un gentilhomme ne pouvant faire que le métier des armes, il fallait bien que l'État se chargeât de son existence. De là résulte qu'à la bravoure près, l'armée française de l'Ancien Régime devenait chaque jour moins respectable aux yeux des étrangers. Quelle émulation et quel talent militaire, l'égalité des citoyens, n'a-t-elle pas fait naître en France? C'est ainsi que l'on a dû à l'Assemblée constituante cette gloire de nos armes, dont nous avons eu raison d'être fiers, tant qu'elle n'est pas devenue la propriété d'un seul homme. L'autorité suprême du roi lui permettait de dérober par des lettres de cachet un gentilhomme à l'action de la loi, quand il avait commis un crime. Le comte de Charolois en fut un exemple frappant dans le dernier siècle, et beaucoup d'autres du même genre pourraient être cités. Cependant, par un singulier contraste, les parents des nobles ne perdaient rien de leur éclat quand un des leurs subissait la peine de mort, et la famille d'un homme du tiers-état était déshonorée si les tribunaux le condamnaient au supplice infamant de la potence, dont les nobles seuls étaient exempts. Tous ces préjugés disparurent en un jour. L'autorité de la raison est immense dès qu'elle peut se montrer sans obstacle. L'on a beau faire depuis 15 ans, rien ne relèvera dans l'opinion nationale les abus que la force seule avait maintenus. On doit à l'Assemblée constituante la suppression des castes en France et la liberté civile pour tous. On la lui doit au moins telle qu'elle existe dans ses décrets. Car il a fallu toujours s'en écarter, dès qu'on a voulu rétablir, sous des noms nouveaux ou anciens, tous les abus supprimés. la législation en France était tellement bigarrée que non seulement des lois particulières régissaient les divers ordres de l'État, mais que chaque province, comme nous l'avons dit, avait ses privilèges distincts. L'Assemblée constituante, en divisant la France en 83 départements, effaça ces anciennes séparations. Elle supprima les impôts sur le sel et sur le tabac, taxes aussi dispendieuses que gênantes, et qui exposaient aux peines les plus graves une foule de pères de famille, que la facilité de la contrebande entraînait à violer des lois injustes. Un système uniforme d'impôts fut établi, et ce bienfait, au moins, est pour jamais assuré. Des distinctions de tout genre étaient inventées par les gentilshommes du second ordre, afin de se garantir de l'égalité dont ils sont, il est vrai, menacés de près. Des privilégiés de la veille aspiraient, avant tout, à ne pas être confondus avec la nation dont ils faisaient naguère partie. Les droits féodaux, ainsi que les dîmes, pesaient sur la classe indigente. Des servitudes personnelles, telles que les corvées et d'autres restes de la barbarie féodale, existaient encore partout. Les droits de chasse ruinaient les agriculteurs, et l'insolence de ces droits était au moins aussi révoltante que le mal positif qu'on en souffrait. Si l'on s'étonne de voir que la France a tant de ressources encore, malgré ses revers, si, malgré la perte des colonies, le commerce s'est ouvert de nouvelles routes, si les progrès de l'agriculture sont inconcevables, malgré la conscription et l'invasion des troupes étrangères, c'est au décret de l'Assemblée constituante qu'il faut l'attribuer. La France de l'Ancien Régime aurait succombé à la millième partie des maux que la France nouvelle a supportés. La division des propriétés par la vente des biens du clergé a retiré de la misère une très nombreuse classe de la société. C'était la suppression des maîtrises, des jurandes, de toutes les gênes imposées à l'industrie, qu'il faut attribuer l'accroissement des manufactures et l'esprit d'entreprise qui s'est montré de toutes parts. Enfin, une nation depuis longtemps attachée à la glèbe est sortie, pour ainsi dire, de dessous terre. Et l'on s'étonne encore, malgré les fléaux de la discorde civile, de tout ce qu'il y a de talent, de richesse et d'émulation, dans un pays qu'on délivre de la triple chaîne d'une église intolérante, d'une noblesse féodale et d'une autorité royale sans limite. Les finances, qui paraissaient un travail si compliqué, s'arrangèrent, pour ainsi dire, d'elles-mêmes, du moment qu'il fut décidé que les impôts seraient consentis par les représentants du peuple et que la publicité serait admise dans le compte des revenus et des dépenses. L'Assemblée constituante est peut-être la seule en France qui ait véritablement représenté le vœu de la nation, et c'est à cause de cela que sa force était incalculable. Une autre aristocratie, celle de la capitale, existait impérieusement. Tout se faisait à Paris, ou plutôt à Versailles, car le pouvoir était concentré tout entier dans les ministres et dans la cour. L'Assemblée constituante accomplit facilement le projet que M. Necker avait en vain tenté, l'établissement des assemblées provinciales. Il y en eut dans chaque département, et des municipalités furent instituées dans chaque ville. Les intérêts locaux furent ainsi soignés par des administrateurs qui y prenaient part et qui étaient connus des administrés. De toutes parts se répandaient la vie, l'émulation, les lumières. Il y eut une France au lieu d'une capitale, une capitale au lieu d'une cour. Enfin, la voix du peuple, appelée depuis si longtemps la voix de Dieu, fut consultée par le gouvernement, et elle l'aurait bien dirigée si, comme nous sommes condamnés à le rappeler, l'Assemblée constituante n'avait pas mis trop de précipitation dans ses réformes dès les premiers jours de sa puissance, et si elle n'était pas, bientôt après, tombée dans les mains des factieux, qui, n'ayant plus rien à moissonner dans le champ du bien, essayèrent du mal pour s'ouvrir une nouvelle carrière. L'établissement de la garde nationale est encore l'un des plus grands bienfaits de l'Assemblée constituante. Là où les soldats seuls sont armés, et non les citoyens, il ne peut exister aucune liberté durable. Enfin, l'Assemblée constituante, en proclamant le renoncement aux conquêtes, semblait inspirée par une crainte prophétique. Elle voulait tourner la vivacité des Français vers les améliorations intérieures et mettre l'empire de la pensée au-dessus de celui des armes. Tous les hommes médiocres appellent volontiers les baïonnettes à leur secours, contre les arguments de la raison, afin d'agir par quelque chose qui soit aussi machine que leur tête. Mais les esprits supérieurs, ne désirant que le développement de la pensée, savent combien la guerre y met d'obstacles. Le bien que l'Assemblée constituante a fait à la France a sans doute inspiré à la nation le sentiment d'énergie qui l'a portée à défendre les droits qu'elle avait acquis. Mais les principes de cette même Assemblée, il faut lui rendre cette justice, étaient très pacifiques. Elle ne portait envie à aucune portion de l'Europe. Et si dans un miroir magique, on lui eût présenté la France perdant sa liberté par ses victoires, elle aurait tâché de combattre cette impulsion du sang par celle des idées, qui est d'un ordre bien plus élevé. Chapitre 5. De la liberté de la presse et de la police pendant l'Assemblée constituante. Non seulement l'Assemblée constituante mérite la reconnaissance du peuple français pour la réforme des abus sous lesquels il était accablé, mais il faut lui rendre encore hommage de ce que, seul entre les autorités qui ont gouverné la France avant et depuis la Révolution, elle a permis franchement et sincèrement la liberté de la presse. Sans doute, elle l'a maintenue d'autant plus volontiers qu'elle était certaine d'avoir l'opinion en sa faveur. Mais on ne peut être un gouvernement libre qu'à cette condition. D'ailleurs, quoique la grande majorité des écrits fût dans le sens des principes de la Révolution, les journaux des aristocrates attaquaient, avec la plus grande amertume, les individus du Parti populaire, et leur amour-propre pouvait en être irrité. Avant 1789, la Hollande et l'Angleterre jouissaient seules en Europe d'une liberté de la presse garantie par les lois. Les journaux politiques ont commencé en même temps que les gouvernements représentatifs, et ces gouvernements en sont inséparables. La Gazette de la Cour, dans les monarchies absolues, suffit à la publication des nouvelles officielles. Mais, pour que toute une nation lise chaque jour des discussions sur les affaires publiques, il faut qu'elle considère les affaires publiques comme les siennes. La liberté de la presse est donc une question tout à fait différente dans les pays où il y a des assemblées dont les débats peuvent être imprimés chaque matin dans les journaux, ou sous le gouvernement silencieux du pouvoir sans limite. La censure préalable, sous un tel gouvernement, peut vous priver d'un bon ouvrage ou vous préserver d'un mauvais écrit. Mais il n'en est pas ainsi des journaux dont l'intérêt est éphémère. Ils dépendent nécessairement des ministres, s'ils sont soumis à une censure préalable. Et il n'existe pas de représentation nationale dès que le pouvoir exécutif a dans sa main, par les gazettes, la fabrique journalière des raisonnements et des faits. Par ce moyen, il est autant le maître de commander à l'opinion qu'aux troupes de ligne. Tout le monde est d'accord sur la nécessité de réprimer par les lois les abus de la liberté de la presse. Mais si le pouvoir exécutif seul a le droit de faire parler à son gré les journaux qui rendent compte aux commettants des débats de leurs mandataires, la censure ne s'en tient point à défendre, elle ordonne, car il faut dicter l'esprit dans lequel les feuilles publiques doivent être rédigées. Ce n'est donc pas un pouvoir négatif, mais positif, que l'on donne aux ministres d'un État quand on leur accorde la censure, ou plutôt la composition des gazettes. Ils peuvent ainsi faire dire sur chaque individu ce qui leur plaît et empêcher que cet individu ne publie sa justification. Du temps de la Révolution en Angleterre, c'était par les sermons prononcés dans les églises que l'opinion se formait. Il en est de même des journaux en France. Si l'Assemblée constituante eut interdit les actes des apôtres et permis seulement les écrits périodiques dirigés contre le parti des aristocrates, le public, soupçonnant quelque mystère, puisqu'il y aurait eu de la contrainte, ne se serait point aussi franchement rattaché aux députés dont il n'aurait pu ni suivre ni juger avec certitude la conduite. le silence complet des journaux serait alors infiniment préférable, car au moins le peu de lettres qui pourraient arriver dans les départements contiendrait quelques vérités pures. L'imprimerie ferait tomber le genre humain dans les ténèbres des sophismes, si l'autorité seule pouvait en disposer, et que les gouvernements eussent ainsi la possibilité de contrefaire la voie publique. Chaque découverte sociale est un moyen de despotisme, si elle n'est pas un moyen de liberté. Mais dira-t-on, tous les troubles de France ont été causés par la licence de la presse. Qui ne reconnaît aujourd'hui que l'Assemblée constituante aurait dû soumettre les écrits factieux, comme tout autre délit public, au jugement des tribunaux? Mais si, pour maintenir son pouvoir, elle avait fait taire ses adversaires et laissé la parole imprimée seulement à ses amis, le gouvernement représentatif aurait été anéanti. Une représentation nationale imparfaite n'est qu'un instrument de plus pour la tyrannie. On a vu dans l'histoire d'Angleterre combien les parlements asservis ont été plus loin que les ministres eux-mêmes dans la bassesse envers le pouvoir. La responsabilité n'est point à craindre pour les corps. D'ailleurs, plus les choses sont belles en elles-mêmes, la représentation nationale, l'art de parler, l'art d'écrire, plus elles deviennent méprisables quand elles dévient de leur destination naturelle. Et alors, ce qui est mauvais par essence vaudrait encore mieux. Ce n'est pas une caste à part que des représentants. Le don des miracles ne leur est pas accordé. Ils ne sont quelque chose que quand ils ont la nation derrière eux. Mais dès que cet appui leur manque, un bataillon de grenadiers est toujours plus fort qu'une assemblée de 300 députés. C'est donc une puissance morale qui leur sert à balancer la force physique de l'autorité, à laquelle les soldats obéissent. Et cette force morale consiste tout entière dans l'action de l'esprit public par la liberté de la presse. Le pouvoir qui donne les places est tout, du moment que l'opinion qui distribue la considération n'est plus rien. Mais ne pouvait-on pas, dira-t-on, suspendre ce droit pour un temps, et par quels moyens alors faire sentir la nécessité de le rétablir? La liberté de la presse est le seul droit dont tous les autres dépendent. Les sentinelles font la sécurité de l'armée. Quand vous voulez écrire contre la suspension de cette liberté, c'est précisément ce que vous dites sur ce sujet qu'on ne vous permet pas de publier. Une seule circonstance, cependant, peut obliger à soumettre les journaux à la censure, c'est-à-dire à l'autorité du gouvernement même qu'ils doivent éclairer. C'est quand les étrangers sont maîtres d'un pays. Mais alors, il n'y a rien dans ce pays, quoi qu'on fasse, qui puisse ressembler à une existence politique. Le seul intérêt de la nation opprimée est donc alors de recouvrer, s'il se peut, son indépendance. Et, comme dans les prisons, le silence apaise plus les geôliers que la plainte. Il faut se taire tant que les verrous sont fermés, tout à la fois sur le sentiment et sur la pensée. L'un des premiers mérites qu'on ne saurait contester à l'Assemblée constituante, c'est le respect qu'elle a toujours eu pour les principes de liberté qu'elle proclamait. J'ai vu 100 fois vendre à la porte d'une assemblée plus puissante que ne l'a jamais été aucun roi de France, les insultes les plus mordantes contre les membres de la majorité, leurs amis et leurs principes. L'Assemblée s'interdisait également toutes les ressources secrètes du pouvoir et ne s'appuyait que sur l'adhésion de la France presque entière. Le secret des lettres était respecté et l'invention d'un ministère de la police ne paraissait pas alors au nombre des fléaux possibles. Il en est de cette police comme de la censure pour les journaux. La situation actuelle de la France, occupée par les étrangers, peut seule en faire concevoir la cruelle nécessité. Lorsque l'Assemblée constituante, transportée à Paris, n'était déjà plus maîtresse, à beaucoup d'égards, de ses propres délibérations, un de ses comités s'avisa de s'appeler « Comité des recherches », relativement à quelques conspirations dénoncées à l'Assemblée. Il n'avait aucune force. Il ne pouvait recourir à aucun espionnage, puisqu'il n'avait point d'agent sous ses ordres, et que d'ailleurs la liberté de parler était complète. Mais ce seul nom de « comité des recherches », analogue à celui des institutions inquisitoriales que les tyrans religieux et politiques ont adoptées, inspirait une aversion universelle. Et le pauvre homme, Wedel, qui présidait ce comité, quoiqu'il ne fît aucun mal, n'était reçu dans aucun parti. La terrible secte des Jacobins prétendit, dans la suite, établir la liberté par le despotisme. Et de ce système sont sortis tous les forfaits. Mais l'Assemblée constituante était bien loin de l'avoir adoptée. Ses moyens étaient analogues à son but, et c'est dans la liberté même qu'elle cherchait la force nécessaire pour établir la liberté. Si l'Assemblée constituante avait joint à cette noble indifférence pour les attaques de ses adversaires, dont l'opinion publique la vengeait, une juste sévérité contre tous les écrits et les rassemblements qui provoquaient au désordre. Si elle s'était dit qu'au moment où un parti quelconque devient puissant, c'est d'abord les siens qu'il doit réprimer, elle aurait gouverné avec tant d'énergie et de sagesse que l'œuvre des siècles se serait accomplie peut-être en 2 années. L'on ne peut s'empêcher de croire que la fatalité, qui doit punir en tout l'orgueil de l'homme, s'y est seule opposée. Car tout semblait facile, alors, tant il y avait d'union dans les esprits et de bonheur dans les circonstances.